Donc, encore une fois, un excellent sabbat à tous. C'est un sabbat annuel. C'est le premier jour du premier jour des pains sans levain. C'est une journée qui est excessivement riche en histoire et dont la signification est des plus importantes pour nous. Et le titre du sermon aujourd'hui est tout simplement « Le voyage d'une vie ». Le voyage d'une vie. Hier soir, au coucher de soleil, il y a presque 3500 ans, donc en 1446 avant Jésus-Christ, quelques 3 millions, et nous devons nous rappeler que c'est une estimation, donc entre 3 et 4 millions de personnes, ont commencé à sortir d'Égypte. C'était hier soir. Et si nous reportons à Exode 12, nous étions là il y a quelques secondes, mais c'est le chapitre qui devrait être très familier pour chacun d'entre nous. Et le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, a introduit la Pâque. Et nous savons que cette nuit-là, tous les premiers-nés qui n'étaient pas couverts par le sang de l'agneau sont morts. Il y avait de grands cris et des pleurs incroyables dans tout l'Égypte. Et toute la structure sociale de la vie égyptienne. Et parfois, on prend juste le temps de lire les plaies. On voit les catastrophes qui se sont passées, mais on doit aussi aller un peu plus loin et se mettre dans la situation que présentement Dieu attaquait le tissu social, toute la structure de la vie égyptienne. Parce que lors des plaies, Christ a attaqué le Nil. C'était la première plaie, tourner le Nil en sang. Le Nil était considéré comme un dieu pour les Égyptiens. Un dieu qui fournissait l'agriculture, qui protégeait l'agriculture, qui amenait la nourriture. Il a été détruit. Ensuite, dans les autres plaies, vous voyez le soleil qui est devenu noir. Il a fait nuit pendant plusieurs jours. Encore une fois, c'est un dieu des Égyptiens. Les animaux qui ont été frappés. Et tous les autres, c'était le système de croyance des Égyptiens qui était totalement anéanti. Et lorsque vous lisez ces plaies-là, vous devez reconnaître que c'est non seulement des plaies qui affectent les gens, mais ça vient chercher aussi tout leur concept religieux, tout leur concept spirituel qu'ils avaient. Et le dernier dieu de leur système de croyance a été anéanti avec la dernière plaie. Et ce dernier roi ou ce dernier dieu, c'était le Pharaon. Le Pharaon était considéré comme un dieu. Un dieu qui protégeait les premiers-nés. Donc le Pharaon était le dieu protecteur des premiers-nés. Il n'avait aucune puissance face au véritable dieu. Et au lever du soleil, le spectacle devait être horrible. Imaginez, vous êtes un serviteur dans une famille égyptienne depuis des décennies. Peut-être vos parents ont servi cette famille, maintenant c'est vous, et peut-être vos enfants ont commencé à servir dans cette même maison. Vous connaissez vos maîtres. Et tous les maîtres, tous les Égyptiens n'étaient probablement pas tous méchants. Il y avait probablement de bons Égyptiens parmi le lot, qui peut-être pas respectaient, mais du moins traitaient d'une manière décente leurs serviteurs, leurs esclaves. Et donc, vous avez des gens, probablement des Israélites, qui ont vécu auprès de familles égyptiennes. Ils ont connu les enfants. Ils ont connu les parents. Et là, ils s'aperçoivent ou ils voient que toutes les familles ont perdu au moins une personne. Donc, prenons à nouveau l'exemple, s'il vous plaît, ou prenons l'histoire, si vous voulez reporter Exode 12, verset 29. Il est écrit au milieu de la nuit, donc vers minuit, l'Éternel frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, jusqu'aux tous les premiers-nés des animaux. Et donc, on voit une mort dans toutes les maisons. Comme une fois, je prends l'exemple de ma famille, mon épouse, moi-même et le fils. Donc, dans la famille, il resterait juste mon plus jeune. Parce que je suis un premier-né, mon épouse est une première-née, et mon premier-né serait tout mort. Donc, Paul se réveillerait demain matin ou le lendemain de la Pâque, et il serait seul. Sur les quatre. Assez impressionnant. Donc, cette nuit-là, le Christ dit, au verset 11, j'ai retourné en arrière beaucoup trop, mais vous mangerez avec les bourrins saints. Et c'est important, il prenait donc la Pâque et il ne pouvait pas sortir pendant cette nuit. Et lorsque nous lisons ensuite le verset 30 d'Exode 12, le Pharaon, lui, se lève dans la nuit avec tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait eu un mort. Et dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Maintenant, on doit expliquer un petit peu. C'est évident que Moïse et Aaron, cette nuit-là, ne sont pas sortis de la maison pour aller voir Pharaon. C'est sûr. Moïse et Aaron ont suivi les commandements de Dieu. Ils sont restés dans la maison. Donc, Pharaon a envoyé un serviteur, a envoyé un messager dire à Moïse et à Aaron, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez tous vos brebis, vos bœufs et bénissez-moi. » Et ensuite, au verset 33, les Égyptiens pressèrent le peuple. Encore une fois, quand? Pas cette nuit-là. Le matin. Ils vont presser les Israélites et ils avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Encore une fois, on doit se mettre dans la peau des Égyptiens. Tout leur système de croyance est à terre. Est détruit. Il n'y a plus rien qui fait effet. Il n'y a plus rien qui tient debout. La société égyptienne est défaite. Un message, une puissance absolument extraordinaire que le Christ a fait. Et donc, le verset 34 à 36, on voit que les Israélites prennent ou dépouillent les Égyptiens. Donc, le peuple emporta sa part avec elle avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et on discutait de ça hier soir, mon épouse et moi, la nuit de la Pâque. Encore une fois, lorsque les enfants d'Israël étaient dans leur maison, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont bien dormi. Parce qu'encore une fois, ils ont tué l'agneau au coucher de soleil, entre les deux soirs, mais ensuite, il fallait le faire cuire. Faire cuire au feu prend 2, 3, 4 heures, si l'agneau est peut-être gros. Et ensuite, on doit le manger. Et ensuite, au milieu de la nuit, on entend les cris en Égypte. Et en même temps, vous savez que le lendemain matin, vous partez. Si vous êtes comme nous, on fait des valises. Donc, je suis pas sûr qu'ils ont bien dormi cette nuit-là. Et le lendemain matin, ils ramassent, ils prennent les vases d'argent, les vases d'or, les vêtements, etc. Ils font leur dernier préparatif et ils se préparent à sortir. Et ensuite, au verset 37, il est marqué, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes, estimons qu'ils sont tous mariés. Donc, on a 600 000 femmes. On est rendu à 1,2. Millions, plus les enfants. Et ensuite, vous avez tous les troupeaux, les bœufs, les agneaux, peut-être des poules. Je ne sais pas si vous avez déjà sorti des vaches dans un enclos. ça marche pas très vite. C'est pas très pressé. Donc, c'est une procession qui est lente. Mais vous avez tous ces événements, tous ces gens, tous ces animaux qui sortent. Et ensuite, on a au verset 38 une précision qui dit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Et le verset 39, « Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre de provisions avec eux. Donc, ils sortent d'Égypte à la fin de la journée. » Au début du 15e jour, est-ce que c'est ce que nous avons célébré hier soir avec la soirée mémorable? Verset 42. Et cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et leurs descendants, et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la soirée mémorable, qui représente cette sortie d'Égypte. Et ensuite, si vous descendez au verset 50 et 51 d'Exode 12, il est écrit « Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, et ce jour même, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. » En anglais, c'est « en ordre ». Et si vous regardez encore une fois un ancien film, les 10 commandements, ou même les bandes dessinées du prince d'Égypte, je ne le conseille pas, mais si jamais vous l'avez vu, on voit une foule déhabrée, proche, qui sort, qui semble suivre Moïse. Pas du tout. Dieu fait les choses en ordre. Les armées sortaient par tribus, ils étaient organisés. Donc, c'était des choses absolument extraordinaires. Maintenant, si on continue dans Exode 13, Exode 13, verset 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Je vais revenir dans un instant, lisons le verset 3. « Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. » Car c'est par la main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On mangera point de pain levé. Donc, le but, c'est de nous souvenir que nous sommes sortis à main levée, à main puissante, que c'est Dieu qui a sorti la nation israélite du pays d'Égypte. Mais c'est aussi Dieu qui nous sort, nous, de l'Égypte autour de nous aujourd'hui. Et cet appel, le fait que vous avez été appelé, que vous avez fait le pas de venir ici, c'est un miracle que Dieu a fait. C'est quelque chose que l'on doit se rappeler. Mais maintenant, avant que la question ne vienne, je vais répondre à une question. Au verset 2, j'ai dit que j'étais pour y revenir, donc c'est marqué « Consacrez-moi tout premier-né de la nation d'Israël ». Donc, la question qui peut se poser à ce moment-là, c'est « Est-ce qu'on doit dédier nos premiers-nés, nous ?» Et la réponse à ceci est non. Gardez votre place ici dans Exode, on va y revenir. Mais reportez-vous dans Nombre 3, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 3. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, Christ fait cette déclaration, « Les premiers-nés sont à moi. » Mais ensuite, lorsqu'ils sont dans le désert, lorsqu'ils ont commencé à travailler, lorsqu'ils ont commencé à voyager, et que le Christ, à un moment, décide d'introduire les Lévites. On voit quelque chose écrit ici dans Nombre 3, verset 12. Il dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. » À la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiennent. Donc, le Christ a changé les premiers-nés des premiers-nés d'Israël aux Lévites. Donc, les Lévites sont devenus consacrés à Dieu, ou faire le service à Dieu, et donc aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de dédier nos premiers-nés. C'est quelque chose que l'on doit se souvenir. Maintenant, revenons à Exode, s'il vous plaît. Exode 3, 13, c'est là que nous étions. Et au verset 3, Dieu nous dit de nous souvenir de ce jour. on doit se souvenir du jour où nous sommes sortis, où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et aussi où nous sommes appelés à sortir d'Égypte. Ça nous représente. Maintenant, si nous allons dans Exode 14, nous voyons que le récit nous amène à la mer Rouge. Et regardez, s'il vous plaît, le verset 13 et 14. Vous connaissez un petit peu l'histoire, je ne prendrai pas le temps de tout expliquer. Mais ici, verset 13, Moïse répondit au peuple, il dit, « Ne craignez rien, restez en place, gardez le silence. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Les gens que vous avez connus, vous ne les reverrez plus jamais. Ce que vous allez faire au cours de ce voyage, vous ne reviendrez plus en Égypte. Israël, en ce premier jour de la fête des pains sans levain, s'engage sur un voyage de toute une vie. Et c'est ce que nous allons faire durant le reste du sermon, sera de regarder les différents aspects de ce voyage. Le Christ nous a appelés, nous fait sortir d'Égypte, et nous sommes sur un voyage de toute une vie. Le point numéro un, nous allons regarder. Point numéro un, ils ont mangé et ils ont préparé le départ rapidement. Revenons un petit peu en arrière dans Exode 12 et le verset 11. J'y ai mentionné juste quelques instants tout à l'heure. Et c'est marqué, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ils ont mangé la Pâque avec les sandales aux pieds, le bâton à la main. Ce n'était pas une fête. C'était un acte solennel, un souper avec énormément de signification. Et si on se transporte au temps de Christ, le Christ mentionne exactement la même chose. Reportez-vous dans Luc 22, s'il vous plaît. Parce que comme il était dit hier par M. Frank, le Christ est mort lors de la journée de la Pâque. Dans aucun autre jour. Mais le jour de la Pâque, au verset 14 de Luc 22, le Christ nous dit ces choses. Il nous dit ceci. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table avec ses apôtres avec lui, et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Avec un ardent désir, Christ a voulu manger la Pâque avec ses disciples. Et ensuite, dans l'espace d'environ 18 heures, le Christ est arrêté, il est jugé, il est condamné par les Juifs. Puis il est envoyé aux Romains parce que les Juifs ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort. Et donc, il est envoyé aux Romains et les Romains aussi condamnent le Christ. Vont le battre, vont le flageller, vont le crucifier. Et à 9 heures du matin, donc hier matin 9 heures, il était crucifié. Ensuite, à midi, hier, il a commencé à faire noir. Et à 15 heures, hier après-midi, le Christ fut tué par un coup de lance dans le côté. Et il a été enterré juste avant le coucher du soleil, donc juste avant que la soirée mémorable ne commence. Et le début du sabbat annuel que nous célébrons maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la première fois que je réalise à quelle vitesse les événements avancent. Il me semble que la Pâque, c'était juste là. Et on a eu tellement d'activités entre les deux. Il me semble que la fête des tabernacles vient de finir. Et on est rendu à la Pâque de l'autre année. Les choses s'accélèrent. Vous regardez les actualités. Les actualités peuvent pas tenir à jour tous les événements qui se passent. Ils prennent les faits saillants, les plus gros morceaux. Les choses avancent à vitesse grand V. Et nous devons faire les choses, et nous avons les choses à la hâte. J'ai eu des gens qui m'ont appelé cette semaine qui disaient, j'ai de la misère à me préparer, à avancer tellement que les choses avancent, tellement que les choses se bougent. C'est absolument ça. À quelle vitesse les événements se bousculent. Et c'est fascinant de voir la relation avec ce que les Israélites ont vécu. Ce que le Christ et les disciples ont vécu. Encore une fois, la nuit de la Pâque pour les Israélites, c'est un feu roulant. Préparer la Pâque, manger la Pâque, avoir les préparatifs pour la sortie. Le lendemain, on prépare les choses, on ramasse les choses. Il y a un branle-bas de combat, ça bouge. On doit être prêt à bouger. On doit être prêt à nous aussi à aller de l'avant. Et le Christ, la même chose. Lorsqu'il s'est assis pour prendre la part, il savait que les 24 prochaines heures étaient pour être absolument époustouflantes. Mais dans le mauvais sens, dans le sens que les événements vont se bousculer un après l'autre. Et c'est là qu'on voit l'importance, ou qu'est-ce qui est intéressant avec qu'est-ce que l'on voit dans Matthieu 24. Reportons-nous dans Matthieu 24. Matthieu 24, versets 17 et 18. Matthieu 24. Prophétie pour les temps de la fin, qui devrait venir à l'arrière de nos pensées. Parce que dans Matthieu 24, verset 17, le Christ nous dit, celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Les activités ou les événements vont faire que ça va se dérouler très rapidement. On doit être prêt à passer à l'action. Ici, on doit être prêt à partir. Avant, Dieu peut nous amener à faire plein d'autres choses. Qui sait quels sont les événements que Dieu se prépare ou Dieu nous prépare au cours de la prochaine année? On doit donc faire en sorte que nous soyons prêts, que nous mettions nos maisons en ordre et tous les sermons qu'on en entend par rapport à ces choses-là. Et reportez-vous à Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, une prophétie absolument extraordinaire qui est mentionnée, qui pointe encore vers les temps juste en avant de nous. Ésaïe 30, versets 13 et 14. Ici, Ésaïe parle d'un sujet de châtiment de Judas, châtiment de la nation. Il dit, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée, qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup. En un instant, il se brise comme on brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. La destruction sera complète. Mais les choses vont arriver subitement. Et c'est toujours intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà fait des barrages lorsque vous étiez petit, jouer dans l'eau. Mais on bâtit un mur, on bâtit un barrage, et tout à coup, on commence à percevoir un petit peu d'eau qui sort. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit peu d'eau vient un petit peu plus grand, un peu plus grand, et tout à coup, tout rompt. Le barrage se brise au complet. Une petite saillie, mais qui va arriver brusquement. Et c'est à cette époque que nous serons confrontés à des mouvements soudains. Pensez-y bien. Et c'est intéressant parce que nous sommes justement à l'époque où probablement que les choses vont bouger d'une manière drastique. Puisque le Christ reviendra fort probablement à la fête des trompettes. Parce que Dieu est un Dieu logique, un Dieu d'ordre. Et que les temps de la fin dure 3 ans et demi. À quel moment vont commencer les événements qui vont amener au retour de Christ? 3 ans et demi avant? 6 mois avant la fête des trompettes nous amène quand? Nous amène autour de la fête de la Pâque, des pains sans levain. Intéressant. Où le Christ nous dit, le jour de la Pâque, mangez la Pâque en hâte. Soyez prêts à bouger. Le Christ a fait la même chose avec ses disciples. Soyez prêts à bouger. Les choses vont se bousculer à partir de maintenant. Est-ce que ça sera cette année? Non. Ça a été relativement calme. Mais qui sait qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Ou l'année d'après? On doit être prêt à bouger. La signification d'être prêt en tout temps, prêt pour notre voyage, prend tout son sens. Et on voit l'importance que Dieu met sur ce point. Donc, on doit absolument faire y prendre attention. Point numéro 2. Israël devait faire quelque chose. Israël devait faire quelque chose. Reportons-nous à Nombre. Nombre 33. Encore une fois, M. Frank y a fait référence hier. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans Nombre 33, Moïse met les points de départ et d'arrivée, ou les points de campement, si on veut, des enfants d'Israël. Donc, Nombre 33, versets 1 à 8, vous pourrez lire tout le restant du chapitre si vous voulez. Mais ici, nous allons prendre juste versets 1 à 8, parce que c'est jusqu'à la mer Rouge. Donc, Nombre 33, verset 1, voici les stations ou les encampements des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée. Encore une fois, une référence à l'ordre, sans confusion. Sous la conduite de Moïse et d'Aaron, Moïse écrivit leur marche et leur station de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent d'Égypte. Ils sortirent d'Égypte, la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait ainsi des jugements contre leurs dieux. N'est-ce pas fascinant? Verset 5. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Et ils partirent d'Étham, se détournèrent vers Piharat, vis-à-vis de Baal-Séphon, et ils campèrent devant Migdol. Verset 8, ils partirent de devant Piharoth et ils passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Donc, on voit qu'il y a 3 encampements et nous savons que les enfants d'Israël vont passer la mer Rouge au milieu du désert par la mer le 7e jour des pains sans levain. Donc, on croit, on estime qu'ils ont probablement marché 2 jours à la fois, ou une nuit, un jour, un campement, et recommence pour qu'il y ait 3 campements sur 7 jours. Encore une fois, c'est des estimés, on n'a pas de preuve de ça. D'accord. Et donc, on voit que les enfants d'Israël ont quoi? Ils ont marché. Ils ont fait quelque chose. Ils ont dû faire un effort pour sortir d'Égypte. Et avez-vous pris le temps d'analyser pourquoi Dieu nous demande de faire le ménage de nos maisons? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a tellement de leçons dans le fait que nous faisons le ménage physique? C'est un travail que Dieu nous demande de faire. Et encore une fois, ça représente notre travail spirituel, mais là, il y a un travail physique que nous devons faire. Et ici, j'ai une liste de 5 points, vous pouvez en trouver d'autres, c'est pas une liste exhaustive. Mais il y a des aspects que l'on doit reconnaître, qu'on peut voir avec ce qui est fait. Donc, lorsque l'on fait le ménage, on a les gros morceaux. Nos pains, nos gâteaux, nos tartes, tous les produits levés qui sont déjà complets, c'est des gros morceaux. C'est facile, si on veut, ou plus évident, à éliminer. Exemple, le sabbat. Mais encore une fois, pour certains, le sabbat est un problème. Mais ce sont des gros morceaux, si on veut. Ensuite, il y a des petites miettes. Ce sont les choses plus petites de nos vies et que nous pouvons voir, que nous pouvons nous apercevoir. Habituellement, des traits de caractère. Des choses que l'on voit, que l'on doit changer, sont plus évidentes, encore une fois, mais plus subtiles que les gros morceaux. Ensuite, vous avez probablement noté qu'il y a aussi des graines qui sont tenaces, des graines qui sont collées, des graines qui sont difficiles d'accès. Je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé votre grille-pain. On voit il y a une graine, là, je la vois, là. Elle est dans le fond, là, mais j'ai pas d'outil pour aller chercher, je suis pas capable d'aller gratter là. Vous savez qu'elle est là, là. Elle est collée. Je sais pas si vous avez remarqué à la part, pour ceux qui y étaient, il y avait quelques graines sur la nappe. Les graines de pain dans du tissu, ça tient. Ça ne veut pas partir facilement. Il faut qu'on gratte. Et probablement, vous avez vu que j'ai gratté pendant un certain moment. Et il y a des graines qui sont collées, des graines qui sont tenaces. Et ça représente peut-être les péchés qui persistent. Des péchés qui résistent. Qui ne veulent pas partir. Qui reviennent. Ou peut-être des péchés que l'on ne veut pas se débarrasser, des idées que l'on ne veut pas se débarrasser, parce qu'on pense qu'elles sont bonnes, mais elles ne le sont pas. Nous avons peut-être aussi nos pertes de patience, nos pertes de contrôle, des mots qui sont dits qui ne devraient pas être dits, des paroles qui sont blessantes, des paroles qui attaquent. Vous savez, si vous vous reportez dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, l'apôtre Jacques était un homme comme nous, il connaissait la puissance des mots. Dans Jacques 1, le verset 26, regardez ce que l'apôtre Jacques nous dit. Si quelqu'un croit être religieux, Jacques 1, verset 26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si l'on ne contrôle pas ce que l'on dit, notre religion est vaine. C'est intéressant parce que Jacques est le demi-frère de Christ. Et rappelez-vous, dans Jean 7, qu'est-ce que les frères de Jésus, qu'est-ce que les frères du Christ ont dit? Il a le raillé un petit peu. Si tu es vraiment le Messie, pourquoi tu ne montes pas à Jérusalem pour te faire connaître? Jacques faisait peut-être partie de ses frères qui ont dit ça. Qui sait? Et je crois que je peux dire, sans aucun doute, que qu'est-ce que Jacques nous décrit ici? Et le combat de tous et chacun à tous les jours de notre vie. Et si vous reportez dans Jacques, chapitre 3, juste un peu plus loin, deux chapitres plus loin, au début du chapitre, Jacques 3, versets 2 à 5, qu'est-ce que Jacques nous mentionne à ce moment-ci? Il dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, un homme complet. » capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Même, voici même les navires qui sont si grands et que poussent de vents impétueux. Encore une fois, on était au temps de voile. Il n'y avait pas de moteur mécanique dans le temps. Donc, poussés par les vents et qui sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Si vous regardez tous les gouvernails aujourd'hui des bateaux, c'est tout petit en comparaison avec le navire. Si vous n'avez jamais fait du canot, vous savez très bien que votre aviron peut diriger le canot. C'est un gouvernail. Et donc, verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Mais comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Et c'est le monde de l'iniquité. Nous devons faire quelque chose. On doit sortir du péché. Et les graines tenaces, on doit s'en débarrasser aussi. » Un quatrième aspect de se débarrasser du levain. Pourquoi Dieu utilise le levain pour nous faire penser au péché? Point numéro 4, si on veut, de ce côté-là, ou de point D, parce que on est déjà dans des points, on est dans le point numéro 2, mais la quatrième version des graines. Il y a des graines que nous ne voyons pas. Des graines que nous ne voyons pas. Et c'est intéressant parce que Dieu avait même prévu des sacrifices pour cela. Retournons dans Lévitique, chapitre 4. Lévitique, chapitre 4. Voyez au Lévitique, dans Lévitique 2, 3, 4, des différents holocaustes, sacrifices qui sont offerts. Mais regardez ici ce qui est décrit dans Lévitique 4, versets 2 et 4 pour commencer. Lévitique 4, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si ce sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et l'a rendu pour là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. » Verset 4, « Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera la main sur le taureau et il l'égorgera. » Donc, il y a un sacrifice qui est payé. Maintenant, descendons au verset 13. Verset 13 de Lévitique 4. Si toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, un péché par omission, on ne voit pas, sans s'en apercevoir, en faisant quelque chose contre les commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point être faites, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en servir en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Avez-vous déjà découvert une graine ou quelque chose de plus gros qui était levé pendant la fête des pains sans levain? Ou après la fête des pains sans levain? Des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'aviez pas remarquées. Il y a tellement d'exemples que j'ai eu au cours des années. Il y a un membre un jour qui m'a dit, j'étais dans mon salon pendant la fête des pains sans levain, et mon chien revient de dehors, de la cour, et mon chien grignotait quelque chose. Je me suis donc levé, je suis allé voir ce que mon chien grignotait, et c'était une croûte de pizza que j'avais faite la semaine dernière. Il l'avait ramenée dans la maison, il ne l'avait pas mangée. Il était allé le cacher dans le jardin, et il l'avait ramenée. Merveilleux. Des choses qui arrivent. Et le dernier point, évidemment, c'est les erreurs du lanceur, des erreurs d'inadvertance. Les péchés qui nous surprennent parce que nous avons baissé notre garde. Lorsque je travaillais pour une compagnie, avant d'être engagé par l'Église, nous avions une réunion des directeurs tous les vendredis. Et pendant la pause, je retournais habituellement à mon bureau pour prendre des courriels, des appels, ou peu importe, continuer mon travail. Mais mon équipe achetait à tous les vendredis des Timbits. Et on mettait les Timbits sur une étagère dans le corridor principal. Et donc, je sors de la réunion. J'arrive en avant de l'étagère. Les Timbits sont là. Et qu'est-ce que je fais? J'en prends deux ou trois. On les avale. On les voit derrière de la cravate. Je continue pour mon bureau. Et dès que je m'assois, dès que mes fesses touchent le dossier, là, vous savez, ça fait ding! Tu gardes, c'était du pain levé, ça. On est dans les pains sans levain. Et oui, une erreur d'inadvertance. Une erreur du pitcher, comme on dit en québécois. Mais ce sont des erreurs d'inadvertance. La garde a été baissée. On a oublié. On a fait par habitude et on retombe dans les mêmes pas que nous faisions avant. J'ai même entendu un ministre un jour qui a dit « J'étais en visite pendant le jour des pains sans levain. » Et comme en habitude, j'ai voulu m'arrêter pour prendre un dîner. J'ai arrêté à mon restaurant préféré, McDo. Il s'est pris un beau hamburger. Il a mangé le hamburger au complet. Et lorsqu'il conduisait à sa prochaine visite, il a dit « Ah, brillant, joli, merveilleux, on est dans les jours des pains sans levain. » Et donc, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on doit garder notre tête et ne pas baisser la garde et ne pas retomber dans nos habitudes. Et donc, on voit que les graines, les pains, levé. Dieu utilise ces symboles-là pour nous représenter qu'est-ce que nous devons faire au niveau spirituel. Des leçons absolument extraordinaires. Donc, le point numéro 2, c'était l'Israélite. Comme nous, aujourd'hui, avons quelque chose à faire. Nous devons changer notre vie. Nous devons marcher hors d'Égypte. Point numéro 3. Les enfants d'Israël ne savaient pas ce que le voyage représentait. Les enfants d'Israël ne savaient pas ce que le voyage représentait. Ils savaient que la fin de ce voyage était pour être une terre promise. Mais ils ne se doutaient absolument pas des multiples péripéties que cela était pour impliquer. Dieu leur a montré quel était son sabbat. Vous avez ça dans Exode 16, brûlez ça à la maison. Dieu leur a donné des épreuves pour les tester, voir leur réaction. Et la réaction des Israélites ne fut pas bonne. Pas bonne du tout, au point où le Christ a dû, car nous servons un Dieu de conséquences, Dieu a dû les laisser mourir ou mourir la première génération dans le désert. Et toute une génération a dû passer. Et maintenant, reportons-nous à Deutéronome 5. Un voyage, un périple extraordinaire qui aurait pu être très court, mais qui a duré 40 ans. Et dans Deutéronome 5, le verset 29, Deutéronome remémore ou rappelle les commandements, les lois de Dieu, parce que nous avons la deuxième génération qui, elle, s'apprête à rentrer en terre promise. Et donc, Moïse, ici, dans Deutéronome 5, verset 29, dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » La deuxième génération, donc, s'apprête à entrer en terre promise. Et Dieu leur indique que leur cœur n'y était pas. et que cette première génération allait atteindre la limite. Et Dieu a dit, OK, un Dieu de conséquences, puisque c'est ça qui va se passer, on va vous laisser dormir. Vous allez tous mourir dans le désert et je vais travailler avec la seconde génération. Je vous reprendrai à la deuxième résurrection et on continuera le travail. Donc, ce voyage de la première génération a duré 40 ans. Et c'est intéressant parce que, voyez-vous, le voyage que nous avons la possibilité de compléter maintenant, est le même. Nous avons le privilège de nous rapporter ou de nous rendre en une terre promise. Maintenant, si vous allez un peu plus loin, dans Josué chapitre 5, vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin, juste avant que les Israélites entrent en terre promise, Moïse va mourir. Et il va donner le pouvoir, ou il va donner les rênes à Josué, ou Christ donne les rênes à Josué, pour que Josué entre en terre promise avec la deuxième génération. Et c'est intéressant ici parce que dans Josué chapitre 5, on voit des choses absolument essentielles. Josué, chapitre 5, les Israélites, encore une fois, vont comment arriver à la destination, mais ils ont encore des choses à faire. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, en verset 2, on voit en ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Nous avons des hommes, des adultes, là, avec des couteaux de pierre. Et Josué circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Et voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant leur route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. S'ils n'étaient pas circoncis, nous allons le revoir dans quelques instants, ils ne pouvaient pas prendre la part. Allons le voir, gardez votre place ici dans Josué 5, on revient, et allez dans Exode 12 encore une fois. Exode chapitre 12. Exode 12, versets 43 et 44. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. » Donc, on doit être circoncis. Descendons verset 47 à 49. « Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. » Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, on revient à Josué chapitre 5. Donc, tout ce peuple était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël, verset 6, avaient marché pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Et donc, verset 7, ce sont les enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, puisqu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Et lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et je comprends absolument qu'est-ce que Josué voulait dire. Je suis pas sûr que me faire circoncire à 50 ans, j'aurais le goût de marcher le lendemain matin. J'aimerais bien qu'on attende que ça guérisse. Mais ensuite, verset 9, c'est marqué, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, Et il y eut en ce lieu un nom de Gilgad jusqu'à ce jour. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgad, et ils firent quoi? Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, donc entre les deux soirs, dans les plaines de Jéricho. Donc on voit ici une chose importante. Ils prennent la Pâque le 14 de Nissan. Et maintenant, regardez le verset 11. Il est marqué, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain ou du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour même. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Et les enfants d'Israël n'eurent plus hâte de manne à partir de ce moment-là. Ils ne mangèrent plus ou ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. » Donc, au verset 11, on voit qu'ils ont mangé du produit du pays le jour suivant. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cette référence à manger du grain rôti au verset 11 fait référence à une cérémonie spéciale qui avait été donnée et que nous devons comprendre. Remarquez quelque chose d'important que nous voyons ici dans Josué 5. Donc, ils ont pris la Pâque et le lendemain, ils ont pu manger des grains rôtis. Quelle est la signification de ces versets? Encore une fois, gardez votre place ici et reportons-nous à Nombre. Nombre, Lévitique. Lévitique 23. J'ai passé dans Nombre alors que je disais le verset. C'est pas une bonne idée. Lévitique 23. Lévitique 23. Encore une fois, M. Frank y a fait référence hier. Mais le mettre en contexte avec qu'est-ce qui se passe avec Josué nous permet d'expliquer quelque chose d'important. Lévitique 23 et le verset 9. On est au désert, on est 40 ans avant. Et ici, l'Éternel, Christ, parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, quand vous serez entrés en terre promise, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera du côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée, et le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, quand? Le lendemain du sabbat. Et ici, vous pouvez mettre entre parenthèses sabbat hebdomadaire. Ensuite, verset 12, vous avez le sacrifice comme tel avec le verset 13. Descendons au verset 14. C'est marqué, vous ne mangerez, notez, vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle. Donc, Dieu ordonne ici quelque chose d'important. Lorsque vous allez entrer dans le pays, dans la terre promise, Josué était dans les plaines de Jéricho, en terre promise. Vous allez offrir une offrande de gerbe. Le verset 14 nous dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger les produits du pays avant la cérémonie de la gerbe agitée. Et donc, l'importance de cette cérémonie-là se trouve, c'est quoi? Il y en a trois. La première, c'est que cette offrande ou cette gerbe agitée nous permet de commencer à compter les jours pour la Pentecôte. Lisons juste le verset 15 et 16 de Lévitique 23, où est-ce que le Christ nous dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Donc, la gerbe agitée nous sert de quoi? Nous sert de signal de départ pour commencer à compter 50 jours. 50 jours pour aller à la Pentecôte. donc le jour après le sabbat hebdomadaire, donc un dimanche, doit être dans les jours des pains sans levain. Parce que l'exemple de Josué 5 nous montre que c'est le sabbat et le jour d'après, ils ont pris le grain rôti, ils ont offert l'offrande, la gerbe agitée. Et c'est important que l'on comprenne cela. Parce que sans ça, on ne sait pas quand commencer le compte pour les jours de la Pentecôte. Et c'est important. Parce que voyez-vous, les Juifs, entre autres, ne prennent pas ce sabbat-là. Ne connaissent pas ou ne font pas cette distinction. Et ce que les Juifs font, c'est qu'ils prennent le premier jour des pains sans levain, le sabbat, donc aujourd'hui, le 15 du mois, et c'est à partir de ce sabbat-là qu'ils comptent pour aller à la Pentecôte. Donc pour eux, ils arrivent toujours le 6 de Sivan. Mais nous savons que nous bougeons, parce qu'on ne se base pas sur un sabbat annuel, mais on se base sur un sabbat où le dimanche va arriver dans la fête des pains sans levain. Deuxième aspect de cette gerbe agitée, cette cérémonie, M. Frank l'a noté hier, pointe à Christ. Et c'est pour ça que nous avons vu hier dans le message, mais nous allons nous reporter pour être sûr que ça rentre. Reportez-vous à Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Et le verset 11 à 18. Donc, vous savez que le Christ est ressuscité et Marie arrive à la tombe, il est plus là et elle revient, elle se tient debout devant le sépulcre et elle pleure. Et ensuite, vous descendez un peu plus loin, verset 15, et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection encore. » Elle n'avait entendu parler, mais ça n'avait pas rentré. Parfois, la réalité est plus dure à accepter. Et qu'est-ce qu'on se fait dire? Donc, verset 15, elle pense que c'est le jardinier. Et donc, ensuite, verset 16, Christ lui dit, « Marie. » Et elle se retourne et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Mère ». À ce moment-là, elle le reconnaît. Et Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Pourquoi? Parce que la cérémonie de la gerbe agitée n'était pas encore arrivée. Christ fonctionne en ordre. Donc, il a attendu que la gerbe soit agitée par le sacrificateur cette journée-là, parce qu'on est au lendemain du sabbat hebdomadaire à l'intérieur de la fête des pains sans levain ce jour-là. Donc, le dimanche à l'intérieur de la fête. Et dès que le sacrificateur s'est approché pour agiter l'herbe, la gerbe, Christ est monté et il est allé être agréé pour nous, au Père. C'est le deuxième aspect de cette cérémonie. Et le troisième aspect de cette cérémonie, encore une fois, si vous revenez dans Lévitique 23, le verset 14, nous voyons quoi? Nous voyons que les Israélites ne pouvaient pas manger de la nouvelle récolte. Prenons le temps de lire verset 14 encore une fois. « Vous mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. » Donc, le troisième aspect de cette cérémonie, c'est qu'elle devait être offerte et ensuite, ils pouvaient manger de la moisson, des fruits du pays de la terre promise. Donc, si on revient à Josué, chapitre 5, mettons les choses ensemble. Et je vais ralentir un peu pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses. Donc, revenons à Josué, chapitre 5, et le verset 10. Il est marqué à la fin du verset 10, « Ils célèbrent la Pâque le 14e jour du premier mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. » Premier aspect. Deuxième aspect, verset 11, « Ils mangent du blé du pays le lendemain de la Pâque. » Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'ils entrent en terre promise, lorsqu'ils font la Pâque en terre promise, la Pâque cette année-là était un sabbat hebdomadaire. Et que le lendemain de la Pâque, ils ont offert la gerbe agitée. Donc, la Pâque, encore une fois, est un sabbat hebdomadaire et le premier jour de la fête des pains sans levain était un dimanche. Exactement comme cette année. Nous avons eu la Pâque quand? La Pâque était un samedi. Et le premier jour des pains sans levain était un dimanche. Aujourd'hui. Donc, si nous étions en Israël, si vous étiez parmi les tribus d'Israël qui rentraient, qui étaient dans la plaine de Jéricho à ce moment-là, la gerbe agitée aurait été offerte ce matin et vous auriez pu manger du fruit de Canaan aujourd'hui. Donc, on a un exemple parfait aujourd'hui de qu'est-ce que ça représente. On le vit. Et donc, le décompte pour la fête de la Pentecôte se déroule quand? On commence aujourd'hui. Le dimanche à l'intérieur de la fête des pains sans levain est dans 50 jours, dans 7 sabbats plus une journée, 5 ans, vous allez arriver le 1er juin. Donc, la Pentecôte cette année est le 1er juin. Et non pas une semaine plus tard si on prend le dimanche prochain. Voyez-vous l'importance de comprendre le voyage dans lequel nous sommes? Donc, frères et sœurs, nous réalisons aujourd'hui, ou on doit réaliser de plus en plus, que l'on répète une histoire qui a été vécue. Et on voit un voyage qui a été effectué par de multiples autres individus. Et nous sommes appelés à faire exactement la même chose. Quelle opportunité absolument formidable que nous avons de pouvoir réaliser tous les détails, de pouvoir apprendre toutes les leçons qui nous sont données et d'avoir le privilège sans mesure d'avoir entrepris un voyage de toute une vie.